Loin des projecteurs de l'actualité internationale, la torture est régulièrement pratiquée contre les prisonniers politiques en Ouzbékistan, pays beaucoup moins connu que son célèbre voisin, l'Afghanistan. Cette semaine, 5 ONG se sont efforcées d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ce scandale ignoré par la communauté internationale. Christine Larocque est responsable pour l'Asie à l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture.
La torture est pratiquée de façon endémique et généralisée. Elle est institutionnalisée par l'État. On constate des tortures physiques extrêmement barbares. Ça peut être des humiliations, des violences sexuelles. Les États-Unis ou différents pays européens ont décidé d'arrêter de parler de droits de l'homme avec l'Ouzbékistan puisque l'Ouzbékistan est un partenaire stratégique par rapport à la guerre en Afghanistan. Différents États occidentaux ont des bases militaires en Ouzbékistan. C'est également la route d'approvisionnement pour les troupes en Afghanistan. Mais nous, société civile française et internationale, on demande absolument à ces États de ne pas se taire. C'est le seul moyen de pression qui peut exister sur l'Ouzbékistan.
Autre dossier passé quasiment inaperçu, la grande conférence nationale du Parti communiste cubain présidée par Raúl Castro. Il faut dire que ce dernier a déçu les attentes. À 2 mois du voyage de Benoît XVI dans l'île, l'ouverture annoncée semble bien timide, tout au moins sur le plan politique. Jeannette Abel, jointe sur place.
On attendait des changements de fonctionnement du parti et des modifications de la direction également. Mais là, réaffirmer la primauté du parti unique, la nécessité de préserver en premier lieu la souveraineté nationale face aux États-Unis. On est dans une situation un petit peu ambiguë et compliquée dans la mesure où les réformes économiques commencent à s'appliquer, la société est en mouvement, on voit bien les changements qui s'opèrent avec l'apparition de petits auto-entrepreneurs, beaucoup de bouleversements sociaux et sur le plan politique, pour l'instant, les changements sont faibles.
C'est le flou également au sommet de l'Union africaine. Malgré de longues tractations, les 54 pays membres n'ont pas réussi à départager les 2 candidats à la présidence, une sud-africaine et un gabonais. Un échec qui met clairement au jour une ligne de fracture au sein de l'institution, comme nous l'explique Antoine Glaser, ancien rédacteur en chef de la Lettre du Continent.
C'est une fracture qui a démarré surtout au moment des interventions françaises ou étrangères, d'abord en Côte d'Ivoire et puis ensuite en Libye. C'est plus politique qu'économique, hein, entre un bloc francophone, un bloc anglophone, avec des grandes puissances du continent qui sont le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui tous les deux veulent avoir le poste qui sera dévolu à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, il y a le bras de fer qui s'officialise avec des rapports de force et des volontés d'organisations régionales qui vont s'affronter pour représenter l'ensemble du continent.
Les autorités marocaines ont interdit la vente du dernier hors-série du magazine français Pèlerin, intitulé « 50 clés pour comprendre l'islam ». Face à l'évolution de l'islam et des pays musulmans, le journal souhaitait aider ses lecteurs à découvrir cette religion et civilisation. Le rédacteur en chef du Pèlerin nous a fait part de son étonnement.
La raison qui a été invoquée par les autorités marocaines, c'est que figurent dans ce numéro 4 miniatures qui montrent Mahomet le visage caché et ce qui semblerait contrevenir à la tradition musulmane. Il me semble que derrière la raison religieuse invoquée, il y a aussi une situation qui est propre au Maroc, qui connaît aussi des tensions avec certains mouvements fondamentalistes et que sans doute le gouvernement marocain veut par là donner un signe à ces mouvements qu'il est le meilleur garant de la protection de la religion musulmane.
En France, les installations nucléaires sont sûres, sauf quand il y a de quoi s'inquiéter. Fukushima a certes suscité quelques craintes dans la population française, mais le débat reste nettement moins passionné qu'ailleurs, malgré l'approche de la présidentielle. Jean-Marie Brom est membre du réseau Sortir du nucléaire. Il s'exprime sans détour.
Ces réacteurs, en cas de problème imprévisible, ne sont pas assez robustes pour résister. On est en train d'avancer sur des sables mouvants. On sait comment ça risque de finir, mais on avance quand même. Soit les politiques veulent rester aveugles, soit ils vont être obligés de peut-être abandonner une ou deux centrales à la vindicte populaire ou commencer à réfléchir sérieusement. Mais il ne faut pas oublier que la France est un des seuls pays au monde qui est aussi dépendant de l'électricité que nous le sommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le débat n'existe pas, quel que soit le candidat qui sera élu au présidentiel, le nucléaire pourra continuer.
Et à la veille de l'ouverture à l'Université pontificale grégorienne de Rome d'un important symposium sur les abus sexuels dans l'Église, nous laisserons le mot de la fin à l'évêque de Tournai, en Belgique, Mgr Arpini, référendaire francophone pour ce dossier.
L'Église avance quand même à grands pas dans ce domaine pour aider davantage les victimes. Et je crois qu'elle a montré à l'ensemble de la communauté chrétienne que ce qui a été non dit pendant des décennies, maintenant puisse être l'occasion de découvrir au fond quel est le vrai message de l'Évangile dans ces situations compliquées et qui causent des blessures à vie chez les victimes.